Universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du 18 juillet, du vendredi 18 juillet 2014, en direct de Washington. Au micro, Nicolas Pinault et Morgane Guiriec. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, le mystère reste entier autour du crash de l'appareil de la Malaysia Airlines en Ukraine. Washington affirme que le Boeing a été abattu par un missile.
Suite de la tournée de François Hollande en Afrique, le président français est arrivé au Niger où des militants d'ONG ont été brièvement interpellés.
Nous avons combattu avec ces gens pour ramener la démocratie dans notre pays. Nous ne comprenons plus comment est-ce que ces gens vont pouvoir empêcher les Nigériens de s'exprimer librement.
Ali Drissa du Rotab.
À Goma, dans l'est de la RDC, clôture de la semaine de la pomme de terre.
Cette activité a été initiée pour rapprocher les producteurs de la région des Grands Lacs et occasionner ainsi des échanges d'expériences.
Reportage à suivre de Primo Pascal Roudaïkoua.
Nous reviendrons aussi sur le conflit entre Israël et le Hamas, sans oublier les sports en fin d'émission avec Bagassi Cour.
Mais avant, le journal.
De nombreuses zones d'ombre persistent en Ukraine après le crash de l'appareil de la Malaysia Airlines qui a fait 298 morts. Le Boeing qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu par un missile, c'est ce qu'affirment les Américains. Quant au Premier ministre malaisien Najib Razak, il a demandé que les responsables soient traduits en justice s'il était prouvé que le vol MH17 a été abattu.
De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé l'ouverture d'une enquête internationale complète, minutieuse et indépendante. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a dépêché une trentaine d'inspecteurs sur les lieux de la catastrophe. Les séparatistes pro-russes qui contrôlent cette région les ont laissés accéder au site aujourd'hui. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Plusieurs leaders du monde ont appelé à une enquête sur le crash qui, hier, a coûté la vie à toutes les 298 personnes à bord, dont un Américain. Pour le président Barack Obama, il faut une enquête indépendante et transparente avant de se prononcer sur les causes exactes de cette tragédie. Le gouvernement ukrainien a ouvertement accusé les séparatistes pro-russes d'avoir descendu l'avion, tandis que ces derniers blâment les forces de Kiev. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, la représentante des États-Unis, Samantha Power, a douté que les séparatistes puissent se servir de manière efficace d'un système de missiles. Elle a suggéré une éventuelle aide technique du personnel russe. Et l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Yuri Sergeyev, a promis de fournir des preuves de l'implication russe dans ce crash.
Au Proche-Orient, deuxième jour de l'invasion terrestre israélienne dans la bande de Gaza, à la demande de la Jordanie et de la Turquie, deux pays qui ont condamné l'offensive israélienne, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit depuis 19h, temps universel, pour discuter des moyens de mettre fin au combat.
Le nombre de personnes déplacées par le conflit à Gaza a presque doublé depuis le début de l'intervention terrestre israélienne, atteignant plus de 40 000 personnes, indiqué vendredi, aujourd'hui, l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens. Sur le terrain, le bilan s'alourdit, nous dit Bagassi Koura.
Les médecins palestiniens affirment qu'au moins 21 habitants de Gaza ont été tués depuis le début de l'invasion terrestre. Un soldat israélien est mort dans des affrontements avec des combattants du Hamas. Pour Israël, l'objectif déclaré est de détruire l'infrastructure du Hamas et les tunnels utilisés par le mouvement palestinien pour mener des attaques en Israël. L'armée israélienne a déclaré via Twitter avoir tué 14 militants, détruit 20 lance-roquettes et bombardé 9 tunnels. Ces opérations ont frappé, selon Israël, un total de 103 cibles terroristes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il était prêt à élargir considérablement l'offensive. Depuis le début de l'opération, le 8 juillet, au moins 267 Palestiniens ont été tués, dont la plupart des civils.
En bref, le président irakien Jalal Talabani, qui se trouvait en Allemagne depuis fin 2012 pour des soins médicaux, rentre demain à Bagdad. Le leader kurde, âgé de 80 ans, revient dans un pays en proie au chaos après l'offensive menée par des djihadistes de l'État islamique.
L'État islamique est accusé d'avoir commis un massacre lors de l'attaque du champ gazier de Shahr, dans l'est de Palmyre, en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme qu'au moins 115 personnes sont mortes, en majorité des gardes et des militaires. Milices pro-régime.
Et le cessez-le-feu n'aura duré que quelques heures en Libye. Selon l'AFP, les combats entre milices ont repris aujourd'hui autour de l'aéroport de Tripoli. Les affrontements font rage. Depuis dimanche, une alliance de milices islamistes cherche à déloger les brigades de Zenten qui contrôlent ce site stratégique depuis 2011.
En Algérie, deux membres d'un groupe islamiste armé ont été tués hier en Kabylie et leurs armes ont été récupérées, annonce le ministère de la Défense algérien. L'opération a eu lieu près du village d'Akérou, à environ 140 km au sud-est d'Alger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà pour le journal. Nicolas Pinault, et Morgane Guiriec en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission.
Les fanions jaunes et les pancartes avec des slogans hostiles à la France n'ont pas pu être brandis au passage du cortège présidentiel qui conduisait François Hollande au palais présidentiel ce matin. La police qui a d'ailleurs interpellé les initiateurs que sont les acteurs de la société civile nigérienne arrivés au palais présidentiel, la délégation française et les autorités nigériennes ont procédé à la signature de plusieurs accords de financement dans les domaines de l'eau, de l'éducation ou encore de la santé, occasion pour François Hollande de donner davantage de détails sur le nouveau dispositif militaire français
Barkhane. Il s'agit d'accompagner les armées de l'Ouest de l'Afrique, de pouvoir faire face à des menaces. Et des menaces, il y en a. Il y a celles qui viennent de Libye, du nord du Nigeria, par rapport à Boko Haram. Au Niger, ce sont 300 soldats français qui sont là.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, avant de revenir sur notre partie magazine, les nouvelles sur le continent africain. Nouvelle violence signalée dans le nord-est du Nigeria. Les autorités indiquent que plusieurs personnes ont été tuées par des islamistes armés de Boko Haram à Damboa. D'après l'agence France Presse, l'attaque aurait débuté hier soir avant le coucher du soleil et la rupture du ramadan, forçant un grand nombre de personnes à fuir vers la brousse.
Au Burkina Faso, on compte désormais 5 morts suite à l'explosion qui a secoué Ouagadougou le 15 juillet. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur un suspect qui aurait stocké des explosifs dans une maison non loin du lieu de la déflagration. On écoute le lieutenant Issa Paré, le chef de l'enquête.
Les informations recueillies au cours de l'enquête ont révélé l'existence d'un lieu de stockage de produits ou matières destinées à l'usage des carrières et mines, recherchées donc par les orpailleurs. L'interpellation du propriétaire de l'entrepôt confirme donc la thèse de l'explosion accidentelle. En effet, la personne suspectée déclare avoir stocké dans une maison le matériel suivant. 15 cartons de gomme appelés Goma D-Eco, 5 rouleaux de fil électrique de couleur jaune, 2 cartons de charge explosive. Le 15 juillet 2014, vers 18h, il aurait instruit 2 personnes d'aller prélever une certaine quantité pour un client. C'est au cours de cette opération que le drame est survenu, coûtant la vie à ces 2 infortunés et d'autres personnes en plus des dégâts enregistrés. À ce jour, on dénombre 5 morts, des blessés graves toujours hospitalisés.
Le lieutenant Issa Paré, le chef de l'enquête au micro de Zoumana Wanogo.
Parlons de la présidentielle au Burundi. Le scrutin aura lieu le 26 juin 2015, une date annoncée par la commission électorale. Un éventuel second tour aura lieu le 27 juillet. C'est ce qu'a précisé le président de la CENI, Pierre Claverne d'Aïkarié, lors d'une cérémonie à Bujumbura. Le calendrier électoral 2015 prévoit également des législatives et des communales le 26 mai, des sénatoriales le 17 juillet et l'élection de conseil de quartier le 24 août.
Le gouvernement accuse les 7 contributeurs du blog Zone 9 et 3 journalistes de diverses publications éthiopiennes d'avoir préparé des attaques et fabriqué des explosifs. Le groupe est accusé d'agir en collusion avec le mouvement interdit Gimboat 7, basé aux États-Unis et considéré comme une organisation terroriste.
Voilà, le sujet est parti un petit peu trop tôt. Donc, 10 journalistes et blogueurs éthiopiens ont été inculpés de terrorisme par la justice. On écoute Michel Joseph.
Le gouvernement accuse les 7 contributeurs du blog Zone 9 et 3 journalistes de diverses publications éthiopiennes d'avoir préparé des attaques et fabriqué des explosifs. Le groupe est accusé d'agir en collusion avec le mouvement interdit Gimboat 7, basé aux États-Unis, et considéré comme une organisation terroriste par Addis Abeba. Leur procès doit reprendre le 4 août. Leur sort a été vivement dénoncé par des organisations de défense de la presse et Human Rights Watch, qui accusent le régime éthiopien de se servir de cette loi controversée pour étouffer la liberté d'expression et museler les dissidences. En Éthiopie et chez son voisin érythréen, la situation de la liberté de la presse est considérée parmi les pires au monde.
Et nous sommes aujourd'hui le 18 juillet, c'est le Mandela Day, mais aussi l'anniversaire de Morgan. Bon anniversaire Morgan.
Merci.
Alors le défunt leader sud-africain aurait eu 96 ans en hommage à ses 67 années de militantisme et d'action politique. Nous étions tous invités à consacrer 67 minutes au service des autres.
Sachez enfin que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de s'occuper de l'obésité infantile. Cette maladie progresse à un rythme rapide et touche 44 millions d'enfants, selon les derniers chiffres publiés en 2012. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission.
Au Niger, visite de François Hollande dans le cadre de sa tournée africaine. Après Abidjan, le président français est arrivé à Niamey ce vendredi, un déplacement marqué par l'arrestation d'une dizaine de membres d'ONG nigériennes. On leur reproche d'avoir voulu organiser des manifestations le long du cortège présidentiel. Écoutons Ali Idrissa du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB. Il a été relâché après le passage du convoi.
J'ai été déjà pris pour une première fois jeudi. À partir de 14h, on peut être libéré dans les cours de 17h. Et ce matin encore, vendredi, la police était chez moi à partir de 4h, a défoncé mon portail. Il nous a été signifié qu'on nous reprochait de vouloir organiser des manifestations à Niamey lors de l'arrivée du président français François Hollande. Après l'arrivée de Hollande, ils nous ont signifié que nous sommes libres.
Mais selon vous, qu'est-ce qui dérange le pouvoir nigérien?
Vraiment, nous ne comprenions pas. Le pouvoir nigérien devrait même nous applaudir parce que nous ne demandons que plus de ressources provenant de l'industrie extractive pour le Niger, de la part dans le contrat arrivé à Niger. Nous ne demandons pas plus ni moins que l'application des lois et règlements à Areva. Nous ne comprenons vraiment pas ce acharnement du pouvoir de Niamey contre nous, acteurs de la société civile, dans le cadre de cette lutte. Nous avions combattu avec ces gens pour ramener la démocratie dans notre pays. Nous ne comprenions plus comment est-ce que ces gens vont pouvoir empêcher aux Nigériens de s'exprimer librement et de manifester librement. Il y a vraiment une dérive autoritaire qui est en train de s'installer dans notre pays.
Quel serait votre message à François Hollande?
Que François Hollande fasse en sorte que le Niger puisse aussi bénéficier des ressources de son sous-sol. Que François Hollande fasse en sorte que Areva accepte de respecter le Niger en mettant en application les lois et règlements de notre pays. Pas plus, pas moins. Nous ne demandons pas la charité à François Hollande. Nous ne demandons qu'une justice fiscale à François Hollande.
Ali Idrissa du ROTAB, il était joint à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Et nous partons maintenant au Sénégal. Le pays est ébranlé par un nouveau scandale dans la gendarmerie. Dans un ouvrage explosif intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise », le colonel Abdoulaye Aziz Ndao accuse l'état-major de la gendarmerie de complicité avec les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Plein feu sur ce feuilleton d'été dakarois avec notre correspondante Dienaba Seydouba.
Un autre scandale éclabousse encore une fois les forces de l'ordre. Cette fois-ci, c'est dans la gendarmerie qu'il y a désordre. Un désordre occasionné par le livre du colonel de gendarmerie Abdulaziz Ndao, commandant en second de la gendarmerie. Dans cet ouvrage, il accuse le général Abdoulaye Fall, chef d'état-major de la gendarmerie actuellement au poste d'ambassadeur du Sénégal au Portugal, de complicité avec le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Il dénonce aussi les mensonges, manipulations, pour de vin dans la gestion du dossier de la Casamance. Cette nouvelle affaire fait réagir la société civile. Par exemple, la RADO, dans un communiqué, a exprimé sa vive inquiétude face aux révélations du colonel Abdulaziz Ndao et exige l'ouverture d'une enquête dans les meilleurs délais. Au niveau du MFDC, on demande aussi un audit du dossier de la Casamance. Abdul Elinkin Diatta, parle au nom des rebelles.
On va donner 3 millions, 12 tonnes de riz par cantonnement et par mois. Ce qui veut dire que j'avais déjà condamné la pratique. En ce moment, j'étais un émissaire direct et j'étais chargé de mission aux côtés du prélat. Je savais ce qui se passait à la présidence. Effectivement, c'était une cagnotte de 50 milliards. Le dossier Casamance, c'est une cagnotte de 50 milliards qui a finalement divisé la présidence. Et la présidence était divisée en lobbying. Et finalement, quand quelqu'un gère le dossier, il y a l'autre lobbying qui presse leurs acteurs. Parce que tous ces lobbying avaient même des bandits armés qu'ils avaient infiltrés en Casamance pour seulement mettre aussi les bâtons dans les roues des autres. Donc le problème a été très complexe et je l'ai dénigré à l'époque. Le général Fall, suivi encore de son grand maestro qui fut Latif Haïdara, m'ont fait la guerre et m'ont sevré de l'abbé Diamakoun, m'interdisant directement d'accès aux œuvres catholiques. Mais aussi de passage, je dois vous dire que quelque part aussi, est-ce qu'il n'y a pas encore un esprit aussi de querelle, c'est des antécédents, hein? Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait aussi un contentieux entre le groupe du général Fall et du ministre de l'Intérieur qui fut l'actuel président. Sur ce même dossier. Donc sur ce, pour nous, le MFDC, nous pensons qu'il faut vraiment des audits sérieuses sur le problème, sur tous ceux qui ont géré le problème de la Casamance.
Pour le moment, aucune réaction du côté du palais présidentiel. Pourtant, beaucoup attendent une déclaration ou des éclaircissements sur ce scandale de la gendarmerie qui fait tache d'huile. Djenaba Seydouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
19h46, temps universel, c'est le deuxième jour de l'invasion terrestre israélienne dans la bande de Gaza pour anéantir les infrastructures du Hamas. Au moins 267 Palestiniens ont été tués après 11 jours d'une offensive pour faire cesser les tirs de roquettes sur Israël. Karim Laïdji est le président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
À supposer que c'est le Hamas qui ait lancé les premières roquettes sur les villes israéliennes ne justifie à aucun moment les bombardements massifs et disproportionnés, la mort de plus de 220, dont la moitié sont des femmes et des enfants. Nous demandons une enquête indépendante et impartiale. Ça fait des années que l'ONU, malheureusement, n'assume pas ses responsabilités. En ce qui concerne les violations constantes des règles de droit international de la part d'Israël, la colonisation, les crimes de guerre, cette attitude a donné cette impression que les Occidentaux, les États-Unis en tête, font la politique de deux poids, deux mesures. En même temps, des lancements de roquettes de la part de Hamas vers les villes israéliennes aussi, c'est une violation constante des conventions de Genève. Il faut que cette enquête soit aussi élargie aux actes de Hamas.
Côté israélien, c'est une autre lecture. Idriss Fall a recueilli la réaction de Joël Lyon, consul général d'Israël pour le Québec au Canada.
Il y a eu plus de 1700 tirs de roquettes sur les villes et villages israéliens. Il y a moins de civils qui sont morts du côté israélien parce que nos anti-roquettes servent à défendre nos civils, tandis que le Hamas se sert de ses civils pour défendre ses roquettes.
On parle de crimes de guerre commis par Israël?
Non, il faudrait parler de crimes de guerre commis par le Hamas. Le Hamas, c'est celui qui prend des boucliers humains. Bien qu'on a distribué des tracts en leur disant qu'on va attaquer une zone ou une autre, le Hamas force les gens à rester sur place. UNRWA, l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, a critiqué le Hamas parce qu'ils avaient fait une cache de 20 roquettes dans une école de l'UNRWA.
Une invasion terrestre, est-ce que ce n'est pas risqué militairement?
Si vous vous rappelez bien, en 2005, Israël avait complètement quitté la bande de Gaza. Et depuis que le Hamas a pris le pouvoir, a fait un putsch militaire contre le Fatah là-bas, n'a pas arrêté de tirer des roquettes, n'a pas arrêté de construire des tunnels en dessous de la frontière israélo-gaza et infiltré des terroristes qui attaquent les populations civiles, des kibbutz, etc. Notre opération, elle est là pour arrêter ces tunnels, pour arrêter ces tirs de roquettes contre notre population civile. Le Hamas, c'est lui le responsable de tout ce qui leur arrive.
Joël Lyon, consul général d'Israël pour le Québec au Canada.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Amis de l'Afrique, écoutez bien le reportage qui va suivre à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, clôture de la semaine de la pomme de terre. C'était la 5e édition de cet événement consacré aux féculents. Au menu notamment l'amélioration de la culture et de la vente de la pomme de terre, comme nous l'explique notre correspondant Primo Pascal Rodaigua.
Le président de la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, Mboussa Lumalisa Achille, souligne que cette activité a été initiée pour rapprocher les producteurs de la région des Grands Lacs et occasionner ainsi des échanges d'expériences dans la production de la pomme de terre.
Que nous devons pouvoir analyser tous ces défis, pourquoi pas donner des perspectives d'amélioration pour que l'écoulement soit fait vraiment avec dans des conditions qui soient bonnes. Pour la commercialisation, il y a des problèmes de stockage, il y a un problème de transformation, et il n'y a pas d'infrastructure pour ça. Donc nous devons aussi échanger autour de ça pour que dans l'avenir, nous puissions améliorer la filière pomme de terre.
Les invités d'autres pays de la région ont saisi cette opportunité pour consolider les relations entre les producteurs de ces secteurs. Pour Joseph Kafaranga, venu du Rwanda, ce sont les échanges réciproques, d'autant plus que chaque pays dispose de ses potentialités naturelles.
Les agriculteurs congolais, en collaboration avec les agriculteurs rwandais, ils échangent, ils utilisent les technologies qu'ils utilisent pour augmenter la production. Il y a d'autres technologies aussi que le Congo a qui peuvent aider les Rwandais.
Les bénéficiaires de la semaine pomme des terres apprécient le déroulement de cette activité. Alphonse Nyoita est un agriculteur de Masisi.
Les bilans en général, il a été très positif. Pourquoi ? Parce que les activités prévues durant cette semaine pomme de terre, j'estime que à 90%, elles ont été réalisées. Et ce qui a été impressionné la communauté, 1 kg de la pomme de terre Penap, c'était 200 francs. Et 1 kg de la pomme de terre variété, c'était 250 francs. Alors que dans les dépôts, 1 kg à moins, c'est 400 francs.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Et la musique qui annonce les sports dans cette émission, on retrouve Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on commence par du football. La FIFA a levé la suspension qui frappait le Nigeria.
Et la FIFA affirme avoir pris note du retrait des procédures et décisions juridiques qui empêchaient le président, les membres du comité exécutif et le congrès de la Fédération nigériane de gérer les affaires du football nigérien et qui avait donc entraîné la suspension, étant donné que l'ordre statutaire a été rétabli, dit la FIFA au sein donc de la NFF, que les organes légitimes ont été réinstallés. La FIFA a décidé de lever la suspension à compter de ce jour, ajoute donc un communiqué de la FIFA qui précise que la levée de la suspension signifie que la Fédération nigériane s'est vue restituer l'ensemble de ses droits de membre conformément à l'article 12 des statuts de l'Organisation internationale du football.
Allez, on parle transfert. Benjamin Moukondjo signe pour 2 ans à Reims.
Et le stade de Reims en Ligue 1 française a officiellement présenté aujourd'hui le Camerounais Benjamin Moukondjo, âgé de 25 ans. L'attaquant des Lions Indomptables, qui évoluait depuis 3 saisons à Nancy, dont la dernière saison a eu lieu en 2e division, a disputé la Coupe du Monde, bien sûr, avec le Cameroun.
On parle toujours un peu de la Coupe du Monde, puisque Philipp Lahm, le capitaine de l'équipe nationale allemande championne du monde pour la 4e fois, il annonce sa retraite, Bagassi.
Le capitaine champion, on devrait dire, il est 5 jours donc après avoir soulevé la 4e Coupe du Monde remportée par l'Allemagne. Philipp Lahm, le meilleur latéral droit depuis plusieurs années, a pris sa retraite internationale au sommet de la gloire.
Il avait quel âge ?
Il avait 30 ans, Nicolas. Alors, un peu plus jeune que vous.
Exactement. Hein. Et Bagassi, alors Joachim Löw, est-ce qu'il va continuer ou pas le sélectionneur allemand ?
Ah, c'est la question que tout le monde se pose. Vous savez que quand on atteint ce niveau avec une très belle sortie, une très belle Coupe du Monde, souvent c'est mieux de se retirer avant que les choses... chez nous on dit il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent.
Et avant de parler de cyclisme, il y a cette information intéressante en provenance de Barcelone, puisqu'il y a une clause dans le contrat de Suarez qui lui interdit de mordre. Et ça, c'est vraiment une première.
Et c'est inédit, parce que interdiction de mordre, je ne sais pas s'il mord quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui faire?
Ouais, je pense
on annule son contrat ou on lui retrait des... on lui retire quelques millions.
En tout cas, les Barcelonais prennent leurs précautions. Allez, on parle cyclisme, le Tour de France. L'Italien Vincenzo Nibali remporte la 13e étape.
Oui, il s'est affirmé en patron du Tour de France lors de cette 13e étape à Chamorros, où il a signé sa 3e victoire à l'occasion de la première arrivée au sommet dans les Alpes à l'altitude de 1730 mètres. Nibali s'est imposé en solitaire à la fin d'une très chaude journée. Il a porté à 3 minutes 37 secondes son avance sur son suivant, l'Espagnol Alejandro Valverde, au classement général provisoire. L'Australien Richie, porte-dauphin de Nibali au départ de Saint-Étienne, a lâché prise à 12,5 km de l'arrivée. Le suppléant donc de Chris Froome à la tête de l'équipe Sky a perdu près de 9 minutes. C'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup et on va évidemment suivre jusqu'à l'arrivée aux Champs-Élysées. Merci beaucoup, c'était Bagassi Koura.
Tous les lundis soirs, la voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple, laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. A très vite, sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Voilà un peu de musique pour finir. DJ Snake feat. Lil Jon, Turn Down for What? C'était DJ Snake feat. Lil Jon, Turn Down for What? Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Yemi à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Morgan Guirieg et Nicolas Pinault à la présentation. On se retrouve la semaine prochaine.